La Grange aux Chimères nous propose ses lectures de nouvelles, des nouvelles tout droit sorties de son nouveau concours de nouvelles 2022. Le thème cette année était l'inconnu. L'inconnu, une notion délicate à retranscrire sous forme d'icône culturelle, sauf à poser un grand point d'interrogation, tellement métaphysique. Dans cette époque d'information permanente, à l'heure où toute connaissance, tout savoir est à portée de main, où toute rencontre peut se provoquer, que nous reste-t-il d'inconnu? Et plus encore, que reste-t-il d'inconnaissable? Tel est donc le thème de cette année du concours de nouvelles, proposé donc par la Grange aux Chimères à Corps, et un thème proposé par Colline. Écrire une nouvelle est stimulant, valorisant et amusant. C'est aussi un moyen de questionner et de se questionner, de découvrir et de se découvrir. À chacun de trouver son style. 12 participants ont répondu présent à cette invitation d'écriture et voici donc leur regard sur l'inconnu. Je vous laisse savourer leur création. Et aujourd'hui, c'est le jour de remise des prix à la Grange aux Chimères, prix pour les 12 participants de cette année. Et c'est Roland Courbier qui nous présente ce concours de nouvelles et qui nous présente la Grange aux Chimères. Puis Colline Grenet en viendra au remerciement. Côté lecture, Anne Baudemont nous lira Prologue de Pierre Baudemont. Elisabeth Giordano nous fera découvrir sa nouvelle Que reste-t-il d'inconnaissable ? Roland de Courbier lira Le courant passe d'Emma Domain. Et pour terminer, ce sera Orage, lu par et de Colline Grenet.
Alors, nous nous retrouvons ici à Corps, à la Grange aux Chimères, pour la présentation du concours de nouvelles et enfin, plus exactement pour le retour et des nouvelles et des présentations des nouvelles. Et donc c'est Roland qui nous accueille et qui va nous en parler. Salut Roland.
Bonjour. Écoutez, nous sommes ravis cette année, nous avons eu 12 participants à ce concours de nouvelles. Certes, ils ne sont pas tous présents aujourd'hui à la remise des prix pour des raisons d'éloignement ou de contingence personnelle. Mais nous en avons réuni non des moindres, un musicien, un ingénieur agronome participe. Mais oui, toujours ce beau master de création littéraire qui est venu à nous et qui nous allèche, etc., etc. Toutes sortes de philosophes. Voilà, donc nous sommes très heureux de pouvoir réunir dans notre espace toutes ces plumes vagabondes et libres. Mmh. Alors, pour faire un tout petit récapitulatif de ce que la Grange aux Chimères a entrepris. Non, vous le savez, ça fait des années qu'on fait la même chose de façon très variée et très créative. Donc en fait, la Grange aux Chimères, pour aller un petit peu de l'ombre à la lumière, elle a comme tout le monde, elle a des petites difficultés par rapport au prix du gasoil. Donc elle se déplace un peu moins. Elle a une pénurie en termes de bénévolat, de temps, de liberté de chacun. Mais néanmoins, elle continuera apporter les projets, par exemple en recrutant vers elle, par son magnétisme, des gens qui veulent bien s'investir, notamment en termes de mobilité et de diffusion. Elle fera toujours son petit travail sympa de chasseur de plumes, à savoir tous les timides, tous ceux qui ont laissé magnifiques manuscrits dans leur tiroir, sont invités à les sortir en petit comité bienveillant où il n'y aura jamais de jugement. Enfin, elle aimerait ouvrir vaillamment un volet actif et vibrant d'auto-édition. Voilà, donc... à la suite de cette remise des prix, puisque vous voilà tous réunis, je vous propose que nous établissions un échange d'idées, c'est les vôtres, en intelligence collective qui feront la lumière, et peut-être un planning. Merci.
Alors Colline, donc tu t'es occupée de la remise des prix, des récompenses et du déclenchement du concours de Noël.
Oui, voilà, donc je voulais remercier la Chambre d'Écho, qui est une maison d'édition parisienne que j'ai connue grâce au contact des différents amis et tout ça, qui a été très généreux avec nous et qui nous a fait même une sélection en fonction du thème du concours de nouvelles. Donc, qui se sont vraiment investis dans ce don d'ouvrage et qui nous ont donné un bon paquet de livres qui ont l'air, somme toute, très intéressants et avec un panel très différent qui aborde la thématique de l'inconnu sous l'angle du voyage ou d'exploration personnelle, voilà. Merci à eux.
Prologue de Pierre Baudemont. Il existe, pour l'entendre respirer, pour le savoir complice, pour avoir vu son ombre. J'aimerais qu'il soit de Cyrano et de la lune l'enfant fabuleux. J'aimerais qu'il soit aussi familier au vent des cimes que des tempêtes sur la mer. Je l'aimerais comme on aime un arbre à l'ombre duquel on s'allonge. Il existe, l'inconnu, pour en avoir rêvé et lui avoir ainsi permis de vivre. Il existe, mais pour tout dire, ainsi la morale d'une fable, à l'inconnu nul n'est tenu, mais il me sied d'y croire. Inconnu, tout le possible vivre encore des flamboiements fragiles qui trop vite meurent. Inconnu, tout ce qui vibrait par avance d'un futur d'excellence. Inconnu des trop jeunes mortes et morts, le devenir étouffé. Inconnu, désespérant, à tout jamais intouchable, mais ce sublime virtuel au secret des derniers instants, peut-être l'ont-ils connu, eux, les esprits furtifs qui se nourrissent de ces printemps incandescents et en thésaurisent les effluves intemporels. Jusqu'au jour où l'intouchable inconnu le conçoit diamant et devient l'artisan flamboyant du grand œuvre, où justice est rendue à la fragilité de ses vies, qui, à mourir en fait, n'ont rien perdu.
Reste-t-il d'inconnaissable ? Tout, dit le vieux CQFD. C'est simple, tout, et surtout tout, avec un T majuscule. Non mais, c'est une blague, c'est sérieux. Une époque d'information permanente, où personne n'est même pas capable de répondre à ces deux mots tout simples. Pourquoi ? Je spécifie, parce que vu l'état du neurone restant opérationnel des habitants de ceux qui demeurent désormais sur cette terre, oui, donc le grand pourquoi de la vie, de son sens, du monde, de l'univers, de l'origine primordiale, et plus ses affinités. Puis, encore plus simplement, comment ? Non, pas le comment, j'ai pas entendu, j'ai rien compris, mais le grand comment ? Presque encore plus mystérieux que le pourquoi. Déjà, comment ça répondre à ce qu'impliquent ces deux mots tout simples ? Dis donc, toi le lecteur, il est où ton savoir ? Que te reste-t-il d'inconnaissable ? Il faudrait déjà que cette connaissance soit à la portée de ton neurone et ton savoir. Ou à la portée de main, dans ton portable, dans les limbes de ta conscience, dans tes cours de fac. C'est là que tu devras faire la différence entre savoir et connaissance. Le savoir, c'est ce que tu apprends et qui va parfois se loger dans ton neurone. Mais la connaissance, comme le génie d'ailleurs, on peut dire naître avec connaissance. C'est cette petite étincelle plus ou moins brillante dont certains sont dotés à leur naissance. Tu ne l'apprends pas, tu nais avec. Oui, c'est vrai, tu peux parfois l'acquérir ou pas. Faire grandir cette étincelle, la sublimer ou pas. Mais il faut déjà qu'il y ait un embryon en toi prêt ou pas à se développer. Après, c'est une question de volonté et d'environnement ou pas. À ta naissance, tu commences à te dire « Qu'est-ce que je fais là ?» Et puis tu enchaînes avec le pourquoi, le comment. Alors, tu comprends que personne ne sait que ce n'est pas à l'école que tu auras des réponses. Il n'y a que ceux qui pensent tout savoir, qui ne se posent jamais ces questions fondamentales et qui, du coup, peuvent devenir arrogants. C'est sûr, quand tu crois être apparu par le plus incroyable des hasards, dans une soupe primitive bombardée d'éclairs où une chaîne d'acides aminés s'est développée, puis, sans chercher à comprendre comment une bactérie a pu débarquer et a fini par produire un singe, et la suite, tu la sais. Pas très glamour tout ça. Alors, conditionné, piqué, nourri de toutes sortes de cochonneries tant alimentaires que mentales, tu es devenu incapable de penser par toi-même. Mais tu penses quand même que tu peux faire mieux que la nature. Hagard, peureux de tout, avec un passé pareil et un avenir uniquement orienté sur une technologie primitive basée sur la chaleur et l'explosion, en fait, tout le contraire de ce que fait la nature. Tu n'es pas sorti de l'auberge, camarade. On t'a persuadé que tout n'était qu'un corps, qui plus est sensible aux fameux microbes. Et maintenant, tu en as une peur bleue, joli bourrage de crâne. Ton corps a été créé parfait, en harmonie avec ton biotope. Mais maintenant, ton biotope a une sale mine. Et tu crois que tu as besoin de médicaments et de vaccins pour être en santé. Ce sont ces saloperies qui te rendent malade. Et tu en veux, en redemandes et en redemandes. Tu n'as aucune idée des autres civilisations sur d'autres mondes qui t'observent, en rigolant sans aucun doute, comme tu observes des animaux de laboratoire. Puisque l'on te fait croire que tu es seul dans l'univers, comme le ver dans sa pomme croit qu'il est seul au monde. Pourquoi tout ce qui existe, des coquillages aux fleurs de tournesol, du dessin de la fourrure des léopards au rapport de proportion de ton corps, sont basés sur le nombre d'or? Tu t'es déjà demandé comment l'eau peut circuler jusqu'au sommet d'un séquoia pour alimenter les feuilles de la canopée par des canaux minuscules, sans machine, sans bruit et sans fumée? Si tu voulais faire la même chose, il te faudrait au moins une centrale atomique pour y parvenir. La nature fonctionne avec un équilibre parfait, sans déchets non recyclables. Mais tu préfères la mésestimer et continuer dans ton ignorance. Nous t'avons légué, nous, les Néandertaliens, une belle planète avec pour mission d'aider tous les règnes à évoluer et d'en comprendre le subtil équilibre. Mais avec arrogance, tu t'es tout de suite senti supérieur. Tu as voulu tout dominer, la nature, les animaux, la terre, la végétation, etc. Et cette arrogance bien sapiens sapiens me fait penser aux physiciens fin 19e siècle qui plaignaient ceux qui allaient arriver, car il n'y aurait plus rien à découvrir. Oui, la mécanique de Newton expliquait parfaitement le mouvement des planètes et les choses basiques de la vie, mais avec les progrès des appareils de mesure est arrivé, non pas Zorro, oui bravo, la catastrophe ultraviolette, une vraie catastrophe en effet. Car un léger décalage dans le spectre de l'ultraviolet allait remettre en cause cette belle mécanique et tout ce savoir. De là est née la physique quantique, un peu comme de passer du carré au cube. C'était vertigineux, et ça l'est encore. Tout un univers s'ouvrait, remettant en cause tout le savoir antérieur. Donc une vraie catastrophe pour tous ceux qui étaient bien assis sur leur savoir. D'ailleurs, il y en a qui ne s'en sont jamais remis, Einstein par exemple. Et tu sais quoi? Tu es à l'aube d'une prochaine apocalypse qui va encore remettre en cause tout et tout ce que tu ne peux même pas imaginer. Comme par exemple passer de puissance 3 à puissance 10. Donc là, j'adore. une époque d'information permanente. Quelle information ? Des informations, celles qui préparent ton cerveau pour laisser la place aux publicités, déjà pour commencer. Tu nais en ayant perdu toute mémoire de ton passé, de tes origines, de tes vies antérieures, d'où tu viens et où tu es censé aller. Tu te rends bien compte que tout te reste inconnu. L'origine primordiale, la création, le passé de la Terre, de son histoire et la tienne. Je ne parle pas de la petite histoire que tu apprends à l'école. Histoire de rois, de batailles, famines, massacres, sauvagerie. Au son tragi-comique du « plus jamais ça », bien connu. Elle est gratinée ton histoire et en plus fausse à 80%. Oui, je sais, il faut déjà se poser certaines questions. Et puis tout cela reste très matériel dans la matière dense. Que sais-tu de ce qui est au-delà de la matière ? Que sais-tu d'une matière qui peut être qualifiée de fine, mais qui reste néanmoins matière, sans répondre aux critères de l'autre, celle à laquelle tu es habitué ? Que se passe-t-il ne serait-ce que dans cette dimension que tu rejoins chaque nuit ? Et où va ton âme quand tu meurs ? Il est vrai que bien souvent, tu ne sais même pas que tu en as une. Oui, toi le lecteur qui crois tout savoir, tu peux répondre comme ça, au pied levé. Tu peux le dire de notre temps, je peux le dire de notre temps, celui des Néandertaliens. Ah, les Néandertaliens, ce n'était pas comme cela. Ah oui, avec nous, la formation était permanente. Mais la vraie, celle du cœur, quand le freluquet de Sapiens Sapiens, oui, car pour vous, nous ne sommes que Sapiens, nous les Néandertaliens, a fait son apparition, il a tout de suite été bien accueilli. Mais il était incapable de communiquer avec nous par la pensée. Son ADN avait été bidouillé pour qu'il soit facilement manipulable et croire toutes les sornettes qu'il était prévu de lui mettre dans la tête, ce qui marche au-delà des projections les plus optimistes. Tronqué de la partie la plus importante de son ADN, il ne pouvait qu'émettre des sons. Nous aussi, bien sûr, mais nous n'avions pas cru utile de développer ce côté rudimentaire et primitif de communiquer. Car la richesse de la communication transpersonnelle la dépasse largement. Communication d'humain à humain, mais aussi avec la nature, les arbres, les insectes, les oiseaux et les bancs de poissons, les oiseaux aussi, dont les baleines nous ravissent, communiquent de cette façon pour harmoniser et synchroniser leurs déplacements. Avec cette communication, tu ne peux pas mentir, tromper, raconter des sornettes. Tes ordinateurs, c'est peanuts à côté. Imagine, tu peux communiquer avec tous tes semblables, mais aussi avec les autres règnes, instantanément, sans passer par des trucs et des bidules ridicules. En fait, une technologie réservée aux infirmes de la vraie communication. D'ailleurs, tu la connais maintenant cette communication, tu l'appelles intrication quantique. Et tu penses qu'elle n'est l'apanage que des atomes, alors que pas du tout. D'ailleurs, certains chercheurs l'ont mise en évidence. C'est la résonance morphique. Tu y viens, un peu long, mais tu y viens quand même. Au début, prétentieux que tu es, tu n'as pas voulu progresser dans notre sens. La cohabitation aurait été pour nous une régression. Néanmoins, nous étions prêts à vous aider. Mais voyant comment le show tournait, nous avons tout simplement quitté nos corps, qui ne sont que des véhicules pour faire une expérience dans la matière dense. Je suis restée, moi, CQFD, que comme témoin. Car nous avions, nous, la connaissance de toutes les civilisations qui nous avaient précédées et qui se sont autodétruites avec leur technologie destructrice. Fort de cette connaissance, nous avons décidé de vivre très simplement avec ce que nous offrait la nature. C'est pour cela que vous nous considérez primitifs. Aujourd'hui, je vais bientôt rejoindre mes frères et sœurs sur une planète ayant déjà effectué son ascension. Mais peut-être que les temps présents vont enfin, après ces périodes fatales d'obscurantisme, faire paraître la lumière. Non, pas celle dont la vitesse est limitée par on ne sait quel radar, mais la vraie lumière, instantanée, tant désirée par ceux de tes copains qui commencent à voir, ce qui ne va pas d'ailleurs être facile. Tu devras te délester de toutes tes certitudes qui sont logées dans ta tête et enfin ouvrir tes vrais yeux, ceux qui te permettront de voir avec le cœur, l'émotion, la compassion, l'amour. Alors s'ouvrira devant tes yeux enfin dessillés un monde que tu n'avais jamais pu voir auparavant. Connaître cette fois tes origines, celles de la Terre, de l'univers, de la vie, mais peut-être aussi apprendre que tu n'es que dans une simulation informatique. Envisage tout. Ainsi, tu pourras accueillir tous les possibles avec bienveillance. Pense par toi-même, remets tout en question. C'est comme cela que tu pourras retrouver ce que l'on t'a enlevé, ta souveraineté individuelle, ta voix intérieure, celle qui te parle, mais que tu n'entends pas. Alors tu ne seras plus esclave de maîtres abusifs et manipulateurs. Les choses n'auront plus la même valeur. Et ce qui te semble maintenant super important te paraîtra futile, insignifiant. Tu comprendras que tu as toujours tout vu en toi, mais que l'on t'a gardé dans l'ignorance, sous le vernis d'un savoir factice. Tu ne connaîtras plus la peur, l'envie, la jalousie, la haine, la marche triomphante de toute l'humanité vers des horizons lumineux pour à reprendre. L'origine primordiale ainsi que la beauté des âmes te seront révélées, en même temps que tous les secrets volés gardés jalousement par une troupe de malfaisants satanistes. Et l'humain, enfin devenu pour de bon, deux fois sage, pourra aller vers son destin avec joie, amour, sérénité et humour. Alors, seulement, tu pourras peut-être dire « Que reste-t-il d'inconnu ? Que me reste-t-il d'inconnaissable ?»
Le courant passe, Emma Domain. Maman annonce, ta cousine Colline viendra passer 2 semaines en juillet. Elle dormira dans ta chambre, comme d'habitude. J'espère que je peux compter sur toi pour qu'elle soit rangée cette fois-ci. Sans répondre, Thomas file dans le jardin. Passe la barrière à la peinture écaillée par le vent incessant et les embruns chargés de sel et débouche sur la digue. Il n'est qu'à moitié heureux de cette nouvelle. Avec Colline, ils ont connu bien des jeux et des aventures au fil de vacances en famille, passées soit chez ses parents à Luc-sur-Mer, soit chez son oncle et sa tante près de Bayonne. Ils retrouvaient chaque fois très vite la complicité, se montrant leurs endroits secrets, bâtissant des cabanes ou des châteaux de sable éphémères, et criant comme des mouettes devant l'avancée inéluctable des vagues. Ils préfèrent, quand elle vient à la maison, ils se sentent maître du jeu, sur son territoire. Mais l'été dernier, sa cousine lui apparut totalement changée. Elle ne parlait plus que fringues et bijoux, passait son temps à se mettre du vernis à ongles et à appeler ses copines, ses parents lui ayant offert un téléphone portable. Colline a 12 ans, bientôt 13, et lui seulement 11. Cet été-là, pour la première fois, face à elle, il s'est senti petit garçon. Thomas enjambe le muret. Reste un instant à contempler la mer, puis se laisse descendre sur les fesses le long de la pente bétonnée jusqu'à atterrir sur le sable. Il marche vers l'eau, aujourd'hui bien plus verte que bleue, d'un vert pâle, chargé de sable et d'écume. Le vent est en train de tourner. Une bande de nuages sombres galope dans le ciel bas et s'étend peu à peu sur l'horizon. Il se sent comme ce ciel gris, nuageux. Ou est-ce nauséeux ? Le mot lui échappe. Pour se rassurer, il égrène dans sa tête la comptine qu'il a l'habitude de fredonner et qui a le don de le calmer, lui qui est dyslexique, dysorthographique. Bichou caillou, chou genou, hibou joujou pou. Ces mots qu'il a eu si longtemps tant de mal à écrire, à présent il connaît bien la règle. Il avance sur le sable, ramasse un coquillage orangé, trouve un caillou étrange et bariolé. Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Et à l'envers, ça aussi, il sait faire. Pou, joujou, hibou, genou, chou, caillou, hi, bijou. Il choute dans un morceau de bois, englué d'algues, déposé par la précédente marée, s'amuse de la course rapide des gravelots sur le sable mouillé. Toujours en bande, les oiseaux graciles suivent le fil du ressac, en avant, en arrière, à toute allure sur leurs petites pattes. À force, leur va-et-vient lui donne le tournis. Sa cousine et ses bijoux, le joli caillou trouvé sur la plage, maman qui veut toujours lui faire manger le chou, les jolis genoux de Colline, sa peur du hibou, qui loge dans un grand chêne dans le parc de la mairie, les jouets et les jeux d'antan qui n'ont plus de sens. Et aussi l'année où ils avaient tous les deux eu des poux aux grandes dames de maman. Mais il aime bien Colline, et même, il l'aime beaucoup. Seulement, il ne sait plus comment se comporter avec elle. Avant, elle n'avait peur ni de se salir, ni de se battre avec les petits Parisiens en vacances. Elle était toujours prête à le suivre dans les plus invraisemblables équipées. Il pouvait compter sur elle. Pareil Kenzo, son meilleur ami à l'école. Mais à présent, la voici devenue une fille. Thomas baisse les yeux. Une étoile de mer est échouée à ses pieds, toute recroquevillée. Il pourrait la ramasser et la mettre à sécher, bien étalée. Se vanter de ce trophée auprès de sa cousine. Il ramasse prudemment l'animal. Hésite, puis se débarrasse rapidement de ses chaussures et marche droit vers les vagues. Sa décision prise, il va la remettre à l'eau. Et même loin du rivage, pour être sûr qu'elle puisse repartir en mer. Maman le grondera encore, parce qu'il va mouiller son pantalon et peut-être même sa chemise et son pull. Tant pis. Colline viendra, comme toujours. Il espère que cette année, avec elle, le courant passe. Après tout, il a grandi depuis l'été dernier. En septembre, il rentre au collège. Et ses parents lui ont promis qu'il aurait enfin un portable.
orage, de Colline Grenet. Le tonnerre explose, son vacarme pénètre de force sous nos crânes, nous écrase de l'intérieur. Déflagration de lumière, une myriade d'éclats en poussière se fiche dans nos yeux brûlés. Aveugles, sourds, hébétés, poumons comprimés, peur panique, nous courons. Il nous rattrape, orage. Hennissement furieux, il galope derrière, dévore la plaine, engouffre la lumière, ravage la terre. Si proche, sur mes talons, son souffle bestial dans mon dos. Jamais si proche. Dans ma poitrine, cœur gonflé, tambour battant. Spasme, mon pouls, mes pas s'accélèrent. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Expire. Je remonte la cohorte de mes pères en cavale. Je n'ai pas mal aux côtes, pas de gorge en feu, pas de bouche sèche, pas de jambes tremblantes. L'espace se déchire encore. Adrénaline, frisson brûlant sous la peau. Tout paraît trop réel. Le monde est une fresque de détails monumentaux. Les couleurs des brins d'herbe, les marbrures ciselées des montagnes, la couleur du visage de cet enfant qui hurle devant moi, écarlate, vernie de larmes. Dans le grondement de la terre piétinée, je discerne chaque pas, les miens, ceux des autres autour, et le martèlement étouffé des sabots du bétail. Des pleurs, des cris, des meuglements, des respirations sifflantes et nos corps qui murmurent. 1, 2, 3. Inspire. Tonnerre, terreur, les regards braqués à l'horizon. Le jour y point, issu de secours en rase-motte. Constat glaçant, la lumière nous échappe. Concentration sculptée sur nos visages de marbre. Plus rien n'existe que le dernier rayon qu'aspirent au loin les montagnes. Plus rien ne compte que le fol espoir d'atteindre le jour. Plus d'autre forme de pensée que cette pulsion de vie délirante dans nos jambes, dans nos cœurs, dans nos ventres. Courir et survivre. Une accélération en sursaut à chaque éclair. Coup de fouet électrifié. Son venin apesantit l'air, boursoufle le ciel en nécrose palpitante. Toute foulée est calculée, la plus efficace possible. Exploiter chaque irrégularité du terrain, gagner en vitesse, minimiser l'effort. Ne pas trébucher surtout, ne pas buter, ne pas hésiter. Surtout ne pas tomber, jamais, jamais. 1, 2, ne pas tomber. Chuter, c'est mourir, ne pas tenir la cadence, c'est mourir. Car l'orage court vite lui aussi. Porté par son triple galop sans membres, son ombre recouvre le monde, le dévore, le broie. Ses entrailles renferment l'enfer. Des lumières tranchantes qui vous lacèrent et vous déchiquettent sans pitié vous réduisent en lambeaux hurlants sous leurs griffes. Et partout, le vacarme, tempête de bruit, de tambours tournoyants qui se fracassent sur votre tête et la brisent atrocement. Il rugit juste au-dessus, semble déjà grogner en nous. Sueur en verglas sur la peau, les aglettements sont rauques, plaintifs. Nous courons depuis longtemps. Larmes acides, terrifiées, nous n'avons pas le choix. Le frère qui file devant moi avec son enfant perd de l'allure. Son chargement est trop lourd. Je dois le dépasser, je ne peux pas ralentir, je ne veux pas mourir. Les portants du travois le freinent, raclent le sol, s'accrochent aux touffes d'herbe, rebondissent sur les pierres. Il m'envoie de la terre et des graviers dans les jambes, je ne peux pas rester derrière lui. Mais notre groupe est dense, impossible de dépasser, coincé entre bœufs, tramois et comparses. Il décélère encore, il a peur, il doit sauver son petit, coûte que coûte. Au ralenti, je vois ses mains se délester du fardeau. Ils s'envolent, disparaissent à toute vitesse. Arrêt net, ça se brise sur mes pieds, éclaboussure de terre, ciel renversé, je m'écrase au sol, comprimé, impossible de respirer. Je ne cours plus. Le bruit s'efface. À l'horizon, une fente éclairée sur laquelle dansent les miens, fragile filament noir contorsionné entre deux flashs flambants. Si loin. Parti. Il s'envole. Il est trop tard pour s'enfuir. Il est là, moi, entre ses serres. Ma cheville est morte, transpercée d'un éclat de bois. Elle tremble. Et maintenant, la rosée est rouge et chaude. Je suis mort dans un instant, seul. 1. Au-dessus, orage. Il gonfle et m'aplatit. Il est difficile de regarder en face le grand dieu de mort. 2. La lumière s'éclipse. L'obscurité est reine. Je pleure. 3. Tout s'embrase, le monde, la plaine, brûle, explose. Et moi dedans.
Behind the hills. to employment. Break out from society.